et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous raconte une enquête criminelle belge. On rend hommage à deux grands artistes, on part en reportage à Montréal et on s'interroge sur la paternité avec un grand écrivain français. Bonjour Régis Jauffray.
Bonjour.
Dans votre nouveau livre Papa, vous racontez des souvenirs avec votre père, décédé plutôt jeune en 1987. C'est une vidéo vue à la télévision où il apparaît qui vous fait remonter les souvenirs. Quel type de père était-il, Régis?
Mon père m'aimait comme il pouvait. Il était sourd, bipolaire et sous Aldol, qui est un neuroleptique, qui est un peu la personne et la personnalité.
Ouais. Vous dites que tout le monde n'est pas fait pour être un père. Tout le monde n'a pas cette faculté-là. À un moment, c'est intéressant, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure.
Je sais pas s'il n'était pas fait, lui, pour être un père. Simplement, si vous voulez, vous aimez vos enfants avec les moyens que vous avez. Alors, ça peut être les moyens financiers ou ça peut être vos moyens physiques. Mmh. Et lui, c'était le physique qui était parti.
Oui, qui lâchait. Ouais.
Les oreilles, la dépression
métapsychique, profonde. Bon, on va parler de ça ensemble. C'est un livre très émouvant qui a séduit nos libraires. Régis Jauffray est dans la librairie francophone cette semaine. On vous emmène à Montréal aussi découvrir un nouveau lieu artistique construit à proximité du port. Le grand auteur et comédien Robert Lalonde porte un regard sur l'art dans cette déambulation atypique. Nous rendrons hommage à Claire Bretéché, comme annoncé la semaine dernière, grâce à un entretien croisé avec Gottlieb, un moment de radio caustique à ne pas manquer. Et puis si vous aimez les enquêtes criminelles, la journaliste belge Anne-Cécile Huard propose un récit glaçant. Elle a suivi de A à Z les enquêtes de deux crimes atroces, un document choc qui pose des questions.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Pour la France, c'est Anne-Rosine Vosa qui est en Martinique dans la librairie Le Papillon Bleu. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien chez vous en Martinique?
Oui, tout va bien. Merci.
Avec la chaleur antillaise. On salue d'ailleurs tous les Antillais qui nous écoutent, très nombreux. Il y a de grands fans de l'émission là-bas. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose.
Toujours.
Vous représentez la Suisse, beaucoup de fans aussi de l'émission en Suisse.
Oui.
Oui, vous confirmez, j'espère quand même. En Belgique, c'est Nathalie Clérin de la librairie La Mazerine à la Hulpe et au Canada, Josiane Letourneau qui sont avec nous. Josiane qui est libraire à Montréal dans la librairie du Square. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, ça c'est carré. Merci d'être avec nous tous les quatre. Toutes les quatre, vous interviendrez tout au long de l'émission. Bonjour Anne-Cécile Huard.
Bonjour.
Vous êtes une journaliste belge qui avait suivi deux affaires criminelles dans les coulisses de l'enquête pendant plusieurs mois. Ça ressemble à une série américaine, sauf que tout est vrai et tout est terrible. On va y revenir tout à l'heure, mais on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. Vous avez cette lourde tâche aujourd'hui. Quelle histoire avez-vous choisie, Anne-Cécile?
Voilà, mais donc je me suis retrouvée en prison en Israël. En résumé, hein, très résumé. Donc c'était en 2002, je devais avoir 24, 25 ans, j'étais toute jeune journaliste, très naïve et voilà, la fleur au fusil si j'ose dire. Et j'avais accompagné une délégation bruxelloise à Bethléem le mois de juillet, donc 2002. Ça s'était bien passé, malgré que c'était le couvre-feu de la deuxième intifada. Je m'étais fait plein de contacts et en même temps j'étais très frustrée parce que moi je voulais couvrir les camps de réfugiés, j'ai encore plein de choses à faire, j'avais pas eu le temps et donc j'ai repris un billet d'avion pour y retourner le mois d'après. Et à l'aéroport on m'a demandé si j'étais déjà venue et je sais pas, j'ai paniqué, j'ai dit non. Et puis j'ai essayé de me rattraper mais c'était trop tard, ils m'ont cuisiné pendant 2 heures.
Ah bah oui, si on ment à la douane, ça marche pas.
On peut pas mentir, non.
Ça m'est arrivé avec un ami à Montréal, ça, figurez-vous. Qui a dit non, je suis jamais venu alors qu'il était venu il y a 10 ans. Et du coup on est resté une demi-heure.
Donc à Montréal aussi.
Oui, ça marche partout. Bon, merci pour cette histoire. Anne-Cécile Huard est dans la librairie francophone cette semaine. Régis Jauffray, vous publiez Papa aux éditions du Seuil. C'est un reportage à la télévision intitulé La police de Vichy qui fait apparaître votre père au pied de l'immeuble de votre enfance à Marseille. Cet homme semble être emmené par la Gestapo. Le problème, c'est que dans votre famille, personne ne se souvient de cet épisode. Votre père n'en a jamais parlé. Il n'était pas juif. Et il n'était pas, a priori en tout cas, un héros de la résistance.
Ben non, c'est d'autant plus étonnant que le fait d'avoir été arrêté par la Gestapo, même par erreur. C'était quelque chose qu'on allait raconter à tout le monde. C'était Donc c'est un mystère total. Mais au-delà de tout ça, il y a un autre mystère qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est une toute petite rue de Marseille. On est en 43. À l'époque, on filme pas du tout dans les rues. Là, c'est filmé de façon très professionnelle.
C'est mis en scène, quasiment.
Oui, champ contre champ. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu un camion qui est venu une heure avant, qu'on a mis la caméra sur pied et personne n'a souvenir d'un tournage.
Voilà. Alors vous allez chercher cette histoire. On va pas tout raconter, mais vous allez imaginer des choses. Et surtout, les souvenirs vont remonter, Régis Geoffrey, avec ce père atteint de surdité qui a eu une relation banale avec votre mère au départ, un voyage de noces que vous racontez qui est très drôle, très banal aussi. Des difficultés à avoir un enfant malgré leur acharnement sexuel, là aussi vous le racontez. Une vie tranquille finalement, sans relief. Et votre papa vous a manqué. On se rend compte de ça au fil des pages. Il vous a manqué à sa mort, mais aussi quand vous étiez enfant.
C'est-à-dire qu'il m'a manqué parce qu'il, j'allais dire, il n'existait pas beaucoup, parce qu'il était toujours là, donc c'était pas un père absent au sens physique, mais il était absent parce que bon, déjà, il était sourd total, et en plus, étant sous neuroleptique, c'était pas quelqu'un qui parlait. J'ai souvenir de à peu près aucune conversation sérieuse avec lui, aucune activité que j'ai pu faire avec lui. C'est avec le temps, cette espèce de pitié qu'on peut avoir pour l'enfant qu'on a été, parce qu'on l'est plus.
Oui, une sorte de tristesse rétrospective.
Oui, rétrospective pour cet enfant-là qui n'a pas eu donc de père comme il y avait des pères autour de moi. Ouais. Comme les autres enfants avaient un père. Et ça, ça a été un manque que j'ai découvert en écrivant ce livre.
Et c'est cette vidéo qui vous permet de lui imaginer un destin, de lui inventer un destin et des honneurs aussi. Et vous dites, on a le droit de rêver son père.
Oui, parce que là, ça me permet de le rêver. Parce que, imaginons qu'il ait été résistant, imaginons qu'il ait été un héros et qu'il n'ait pas voulu en parler. On peut tout imaginer à partir de cette arrestation.
C'est incroyable, cette histoire. On va écouter la BO du roman. On vous a demandé de choisir la musique qui illustrait votre livre. Je crois que vous étiez déjà venu pour ça. Vous aviez choisi Mylène Farmer, non? C'est pas vous, ça?
Oui,
sans contrefaçon.
Oui.
Bon, là, c'est pas Mylène Farmer du tout. C'est Serge Gainsbourg. Aux armes, etc. Écoutons. Pourquoi cette chanson de Serge Gainsbourg, Régis Geoffrey?
Parce qu'on est en 43 et c'est quand même la chanson qui vient à l'esprit, c'est quand même la Marseillaise. Et là, en même temps, c'est un côté international puisqu'il y a les musiciens de Bob Marley et ses choristes. Donc je trouvais que c'était vraiment la chanson à mettre, la musique à faire passer.
Et elle illustre un peu votre relation avec votre papa?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, non.
Non, il n'était pas Rasta, il n'était pas chanteur.
Non. Il n'y avait pas de combat entre vous.
Hein. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas, il n'y a eu aucun combat entre nous.
C'était neutre.
Il n'y avait aucune violence de sa part non plus. Il y avait tout ce qui était, les relations que j'ai eues sont tout à fait douces et normales. Simplement, elles sont presque insignifiantes.
Vous écrivez, j'aurais aimé t'admirer. Tu aurais pu faire l'effort de me donner au fil du temps quelques motifs. J'étais assoiffé de toi. Je crevais du désir de t'aimer. Tu n'étais pas généreux. Il fallait que je me contente de la vie que tu m'avais offerte en jouissant.
Oui. Oui, c'est-à-dire c'est un peu...
C'est radical.
Mais c'est-à-dire que moi, à mon âge, j'aurais toute l'indulgence du monde, mais il y avait cette distance entre est-ce que je dois faire aussi parler, je dois prendre la défense de ce gosse ou pas. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai fait, parce que en effet, je voyais les pères autour de moi, c'était pas du tout la même chose, parce que au moins il y avait un dialogue possible, il y avait quelque chose, c'était des pères qui étaient dans la vie, qui menaient la même vie que leurs enfants.
Ouais,
alors que mon père vivait en parallèle.
Oui, c'est ça, vous le dites ça, ils vivaient en parallèle. Vous racontez aussi que les enfants sont indulgents avec leurs parents. C'est vrai qu'en règle générale, tous les enfants sont indulgents avec les parents, même les plus mauvais. Et vous expliquez avec beaucoup de tact et finalement beaucoup d'amour que tout le monde ne peut pas prétendre au titre de papa. C'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, ça, Régis Geoffrey?
Je sais pas, puisque moi, le livre, en fait, je sais pas si, en fait, ça n'a pas consisté à lui faire gagner ce titre, en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Justement, oui.
Voilà, c'est autre chose. En même temps, c'est moderne. parce que le titre de papa, par exemple, au 19e siècle, ça n'aurait aucun sens parce que c'était pas ce qu'on demandait à un père, d'être dans l'affection, dans
le jouer
avec ses enfants,
ça,
et d'être proche. Bon, le titre de papa, et en plus, moi, je trouve ça toujours un peu ridicule de dire mon papa, ma maman, etc., quand on a 50 ans ou 80 ans.
Ouais.
Et donc là, je l'ai intitulé papa, mais c'est justifié par le livre. En fait.
Bon, les quatre libraires ont lu votre roman, Régis Geoffrey. Anne-Rosine Vosa est en Martinique. Avez-vous aimé ce livre en France, Anne ?
Oui, j'ai trouvé ce roman très beau et très fort. Mais je crois que la force de ce roman réside dans l'omniprésence de l'amour parental qui sous-tend le récit de la première à la dernière page.
Mais c'est vrai que c'est un cri d'affection, Régis. Ce livre, il résonne comme une grande lettre. Quand on a été en manque d'un père ou d'une mère, on construit sa vie de façon bancale. Est-ce que ce manque finit toujours par ressurgir, quel que soit son âge, justement ?
Là, il a ressurgi, mais j'aurais jamais pensé écrire un livre sur mon père.
À votre âge ?
Oui.
40, 45, un truc comme ça.
40, 45 ans.
Ça vous plaît, je sais, je connais.
On a encore le manque de son père. Oui, oui, tout à fait, je confirme. À 64 ans, j'ai encore eu, j'ai éprouvé ce manque de mon père. Mais là, j'ai pu me le dire à moi, ce que je n'aurais pas pu me dire à moi-même avant.
Dominique Bressot, pour la Suisse, avez-vous été touchée, vous ?
Moi aussi, oui, j'ai été touchée. En fait, j'ai eu beaucoup de peine à finir ce livre, non pas du tout parce qu'il ne m'intéressait pas, mais plutôt en raison de l'angoisse et puis de l'étouffement que j'ai ressenti. Mais il y avait des trouvailles magnifiques, des véritables pépites en termes d'écriture, et je trouvais que sublimer ainsi la détresse d'un enfant esselé par la fiction, des procédés stylistiques, c'est vraiment du très grand art.
Étouffant pour vous, Josiane Letourneau, au Canada ?
Ben, en fait, j'ai plutôt été déroutée, je crois, parce que je trouve que c'est un livre étonnant, audacieux. C'est un livre qui ne m'a à aucun moment permis de me sentir confortable, mais que j'ai aimé pourtant d'une façon inédite. Je l'ai aimé comme on aime un enfant brusque. Le genre d'enfant qu'on aurait envie de faire taire parfois en public parce qu'il dit de nous ce qu'on voudrait garder secret. Mais vous avez piqué ma curiosité, Régis Geoffrey, et ce livre m'a définitivement donné envie de vous lire à nouveau.
À un moment, vous écrivez, Régis, « Alfred, je t'aime au bénéfice du doute ».
Oui, je l'ai aimé.
Il y avait un doute qu'il vous aime, lui, en retour ?
Non, il m'aimait, mais comme il pouvait. C'est-à-dire, je pense que la personnalité des gens qui sont sous Aldol, c'est une drogue qui était utilisée en URSS pour droguer les dissidents.
Ouais.
Si vous voulez, quand on en met trop d'Aldol dans une personne, il peut même plus parler. Mais l'Aldol, c'est une drogue qui est faite pour empêcher de penser.
Mmh.
Donc, si on donne de l'Aldol, vous allez penser moins. Donc, votre affect va être moindre. Et donc, votre expression de votre affection va être bien moindre. Et les autres vont très peu exister.
Et vous imaginez des week-ends avec lui. C'est très touchant, ça, Régis Geoffrey, parce que, vous le dites, ça, les écrivains, ils sont comme ça. Quand le réel leur déplaît, ils le remplacent par la fiction. Et votre papa vivait en parallèle de vous, jamais avec vous. Vous imaginez donc un moment qu'il s'occupe de vous, qu'il prépare le repas, qu'il vous emmène dans les calanques en scooter. Mais rien de tout cela n'a existé. Il allait même à la neige tout seul, vous le dites, ça aussi. Il partait au ski tout seul.
Oui, partait au ski tout seul. Et ça, je m'en suis aperçu, je le savais, en écrivant le livre. Et je me suis dit, mais pourquoi il partait au ski tout seul alors que ma mère faisait du ski, avait fait du ski puisqu'elle avait vécu à Grenoble.
Mmh.
On aurait pu partir tous les trois. Et donc ça, c'est un peu une énigme aussi.
Nathalie Clairin, pour la Belgique, on va conclure avec vous. Vous avez aimé le livre de Régis Geoffrey, je crois.
Oui, beaucoup, beaucoup, Emmanuel. Donc, pour moi, par rapport aux microfictions que vous nous avez habitués à lire, Monsieur Geoffrey, ce livre arrive comme la pièce essentielle manquante à un puzzle. Je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé ça bouleversant, car c'est sans doute pour vous une thérapie. Je bénis cet incident qui vous donne le prétexte à parler de votre père, encore et encore, jusqu'à ce que votre discours évacue colère et tristesse, pour pouvoir dire finalement « je t'aime, papa ». Pour moi, tout le monde doit le lire, car on a tous un papa.
Oui, c'est vrai. On a tous un papa. Régis, il est très ému. Hein. Vous avez séduit nos quatre libraires. Est-ce que vous avez été un bon père, du coup ?
Bah, vous demanderez ça à mes enfants et à
vous
mon
avez
fils
demandé,
qui publie un livre au mois de mai.
Ah bah, allons-y.
Qui s'appelle Le Fumoir chez Anne Carrière. Vous n'aurez qu'à l'inviter. Vous demanderez, vous répondrez. Hein.
Bah voilà, ça c'est un bon père.
Voilà.
C'est un peu truqué, ça fait un peu piston, mais c'est un bon
non,
père.
Mais c'est vrai.
Ça me plaît moyen, mais ça me plaît du côté humain. Allez, merci Régis Geoffrey. Vous restez bien sûr avec nous. Papa est paru aux éditions du Seuil, un livre, vous l'avez entendu, qui a séduit nos libraires. À suivre, un reportage à Montréal avec le grand auteur et comédien Robert Lambert. Lalonde. Il a choisi un lieu artistique étonnant que nous allons vous faire découvrir. Avant cela, voici la chanteuse martiniquaise d'origine réunionnaise, Orlan, dans la librairie francophone.
Le porc au fait qu'il y a des grands matins, depuis la belle piano, au bout de chemin, et pour du béatel de Simourin, moi la Saint-Denis pour prendre le train.
Saint-Denis à les affaires, casse pas la tête, prends le chemin de fer, si ton famille y arrête froid, mais c'est bon Dieu, nana le train. Tout ça l'auto fait l'embouteillage. Le train il fait droit, n'a point pour mailler. Sauf que moi à soir, il va arriver.
Sans ennemis, allez, ça vient.
Casse pas la tête, prends le chemin de fer. Si ton famille y arrête froid, mais si bon Dieu n'en a le train.
Sois pas mon moment. Attends.
Allez, par hasard, sur les fines levées. Mon vieux, il fait mal d'un moins mon soulier. Comme dans la gare de mon empagaille. La blague espère l'autorail.
Sans ennemis, allez, ça vient. Passe pas la fête, mon chemin de fer. Si ton famille y a
besoin,
merci bon Dieu, nana le train.
C'est vrai.
Nana le train.
Comme ça, là, allez.
Il y a gaffe sous la place pour assise. Il reste un dans le fond, faut pas m'y amuser. Le temps, on met des battes pour gagner un chemin. Un gros femme chinois passe devant moi.
Sans ennemis, allez, ça vient.
Passe pas la tête. C'est bon Dieu, nana le train.
Nana le train.
Nana le train.
Nana le train.
Le coffre a un coin côté un carreau. Il gagne un peu l'air, puis tient mon paletot. Mi pain, mon cheveu, m'imagine ma maille. Quand va veille à moi, ça sent le tour.
Passe pas la tête, mon chemin de fer. C'est ton famille, il arrête loin. Mais c'est bon Dieu, nana le train.
C'était la chanteuse Orlan, d'origine réunionnaise mais martiniquaise, avec Séga le train. Et on part tout de suite au Canada pour un reportage inédit avec le grand auteur et comédien Robert Lalonde. Voilà, au cœur de la ville de Montréal, avec le fleuve Saint-Laurent, pas très loin. Bonjour Robert Lalonde.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Robert ?
Ça va bien, vous avez un sale temps et il fait moins 15, il fait 2, il fait moins 20.
C'est un peu ça. Bon, vous êtes l'écrivain et acteur québécois que l'on connaît bien à travers la francophonie, l'une des grandes voix artistiques du Canada. On vous a laissé le choix de cet entretien, le choix du lieu Robert. Où sommes-nous là ?
Nous sommes Arsenal, qui est un... C'est pas un musée, en fait, c'est une salle d'exposition d'art moderne, c'est assez récent, qui me rappelle à moi peut-être le Tate Gallery à Londres. Et je ne pensais pas qu'on serait accueillis par des bulldozers et des grues.
Il y a plein de travaux autour de nous. Il faut savoir que c'est une zone avec beaucoup de hangars, parce qu'on est proche du port qui est derrière.
On est proche de tous les hangars, de toutes les usines, des anciennes usines surtout, parce que tout ce qui arrivait par bateau, par train, etc., arrivait tout dans le coin où on est. Les arts ont un peu envahi ces endroits-là.
Bon, alors voilà, on va rentrer parce qu'il y a beaucoup de vent, il fait très froid, il y a de la neige, ça commence à faire beaucoup. Et on va déambuler dans cet endroit et parler de votre nouveau roman-récit autour de votre père et de la création artistique.
Parfait, monsieur. Voilà, je vous ouvre là.
Merci.
Se déshabille.
Hein? Alors, Robert Lalonde, dans votre nouveau livre « Fais ta guerre, fais ta joie », vous rendez hommage à votre père, qui était peintre, mais aussi aux artistes. Vous tissez des liens entre l'écriture et la peinture. Il y a une passerelle entre les deux.
Oui, il y a une passerelle, surtout pour moi, puisque mon père était peintre. Il disait plutôt qu'il était peintraillant, parce qu'il a mis du temps, puisqu'il gagnait sa vie commercialement en peignant des enseignes, des trucs comme ça, pour faire vivre la famille. Il s'est mis à la peinture comme le dimanche, et puis en plus, plus tard, dans sa vie, il a fini avec une œuvre assez considérable. Mais j'ai toujours regardé mon père travailler quand j'étais jeune, en me demandant comment il faisait. Puis le lendemain, j'arrivais, puis il y avait totalement barbouillé le tableau, il restait plus rien. Il y avait un fond ocre un peu. Je disais, mais t'as tout défait ce que t'as fait hier. Il fait, mais oui, c'est pas d'importance. Là, j'ai un fond. J'ai enfin un fond qui a du bon. Et pour moi, l'écriture, c'est un peu comme ça aussi. Ouais. À un moment, on accumule du matériel, on travaille, puis en fait, c'est que du réchauffement. La véritable truc arrive plus tard.
Vous écrivez, tout grand artiste ne demande ni à triompher, ni à s'enrichir, ni même à vivre mieux. Il demande à continuer. Un point, c'est tout.
Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est Cézanne qui disait ça. La bêtise, c'est de finir, de penser qu'il faut finir quelque chose et qu'il va avoir une fin à ça. C'est pareil pour un livre on ne finit pas, on lâche à un moment donné parce qu'on n'en peut plus. Tu vois, c'est transformé parce que la dernière fois que je me suis venu dans cette salle, elle avait un tout autre aspect. Donc à chaque fois, il y a une scénographie précise qui accompagne les œuvres qui sont exposées.
On a des photographies qui sont suspendues. Oui. Suspendues au plafond par des filins, par des câbles. Et on est dans un espace sombre, noir. Et ces photographies sont éclairées, ce qui donne un relief au sol et ce qui donne quelque chose de complètement incroyable. On a ces photos qui flottent dans l'air.
C'est très, je dirais, cinématographique, oui, pour moi. On a l'impression d'avoir devant nous des écrans, hein, comme des écrans de télé qui seraient avec sur une image fixe. Et des photos très travaillées, absolument pas des photos prises, à mon avis, prises sur le vif. C'est des gens qui ont travaillé, ouais, comme on travaille une toile, une photographie.
Alors justement, votre père opposer la photographie éphémère à la peinture, mais en fin de compte, tout est éphémère. Il vous compare une photographie, il est en train de peindre, en s'appuyant sur la photographie comme modèle, il vous dit, regarde la photographie comme elle est dégradée, et regarde la peinture, et regarde surtout ce qu'on peut faire avec la peinture. On peut rendre les choses encore plus vivantes.
Voilà, il disait, la photographie c'est le passé, la peinture c'est le présent.
C'est un livre sur l'éphémère que vous avez écrit, Robert Lalonde, parce qu'on a cette sensation-là quand on lit votre livre, on se dit que finalement tout est éphémère. Ça part de la photographie, et quand vous évoquez, quand vous convoquez Van Gogh, Monet ou encore Paul Cézanne, il y a cet aspect éphémère. À chaque fois, ils ont des parcours difficiles, à chaque fois ils se battent aussi pour créer, et au final, bah, qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça la question.
Est-ce qu'il est terrifiant pour moi dans l'art en général, ces artistes-là que vous évoquez l'ont subi, même à leur insu, puisque maintenant ils se retrouvent sur des têtes d'oreiller, sur des bols à café, sur des...
Oui, oui. Hein,
bon, c'est devenu, c'est comme si c'était des icônes de tout temps, les images universelles. Les peintres qui ont créé ces trucs-là ont quand même besogné très fort et ont été dans des salons de refusés pendant des années et considérés comme des barbouilleurs. Je crois qu'en grande partie, c'est le destin de l'artiste lui-même que j'évoque dans ce livre-là. Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste? Est-ce que ça ne veut pas forcément dire qu'il faut souffrir, mais ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord avec l'époque dans laquelle on vit. Et eux-mêmes disaient ça, et Van Gogh disait ça dans ses lettres aussi. Ce qu'il faut, c'est continuer. Ce qu'on veut faire, c'est continuer. Ils sont plus là, mais ils continuent.
Eh oui, ils ont laissé des traces quand même.
Ils ont laissé de grosses et fortes traces qui influencent encore beaucoup la peinture.
Alors les traces, ça, justement, beau, on est face à une œuvre hypnotique qui fait 10 mètres sur 10 mètres avec un grand carré blanc. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des moulages? Où êtes-vous, Robert?
Ce sont en fait des empreintes de doigts, de mains ou de pieds dans une glaise séchée, alignées sur à peu près des rangées, une quarantaine de rangées qui se fait peut-être 40 par 40 pieds en mètres, je ne sais pas. Et au bout, il y a une forme énorme, grise et blanche.
On dirait une chaussure.
C'est un pied, c'est une chaussure.
Et grosse basket moderne.
On aurait l'impression, en le regardant comme il faut, on a l'impression que pour en arriver, parce qu'il faut l'avoir, je crois, du point de vue où on est, là, Emmanuel, vous et moi, en ce moment, pour arriver à quelque chose, il faut se donner du mal. Il faut avancer pas à pas, il faut s'agripper, il faut... Enfin, moi, je le vois comme ça.
C'est vrai, c'est une bonne interprétation.
Ouais.
Avec les traces de doigts, dans cette glaise,
dans la glaise,
qui montre aussi toutes les petites mains qui, peut-être, fabriquent ce type de chaussures.
Ouais, vous le voyez exactement comme moi, donc on doit pas... L'intention de l'artiste ne doit pas être loin de ça.
Vous pouvez nous envoyer courriel, courrier, pour nous dire qu'on n'y comprend rien à l'art contemporain. Mais l'art contemporain, c'est fait pour ça, c'est fait pour interpréter.
C'est pas fait pour comprendre, non.
En plus, peut-être
nous,
que...
Nous, l'écriture non plus, c'est pas vrai. On n'essaie pas de comprendre en écrivant, on essaie de vibrer avec quelque chose.
Alors, vous parlez de la disparition des espèces, de la nature. On est face à des oiseaux.
Oui.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une résonance avec votre livre, Robert
oui,
Lalonde. Vous évoquez l'histoire de Jean-Jacques Audubon, qui va peindre des oiseaux une grande partie de sa vie, au point de concevoir un immense album. Audubon, né en Haïti, peintre américain d'origine française, on le nommait aussi John James Audubon, il va trouver une solution radicale pour peindre les oiseaux dans leur mouvement, sans qu'il ne bouge.
Personne n'a réussi ça, ni avant, ni après lui. Bien sûr, c'est des oiseaux qu'il tuait, qu'il chassait.
Voilà, il va les tuer
va
avec
les tuer.
Du petit plomb pour ne pas trop les abîmer.
Petit plomb pour ne pas... Il a cherché longtemps le modèle et la grosseur de plomb pour ne pas les abîmer. Et ensuite, il va essayer d'étaler l'oiseau. Il a tout un système. Il essaie avec des broches, il essaie avec de la corde. Et toujours, son regard se tourne vers des oiseaux qui volent en disant « C'est pas possible, je n'arriverai jamais à rendre ce mouvement-là ». Puis à un moment, il trouve...
Du coup, il va concevoir un gigantesque album et il ne va jamais se préoccuper quand il va partir à la recherche des espèces rares qu'en les tuant, il contribue à la disparition de ces espèces.
Non, cela dit, il n'y a personne comme Audubon qui a pu permettre à des gens de connaître les oiseaux d'Amérique.
Eh oui, oui. Merci beaucoup Robert Lalonde.
C'est un plaisir.
Merci. Votre livre « Fais ta guerre »,« Fais ta joie » est paru chez Boréal. Merci beaucoup de nous avoir reçus finalement dans cet arsenal art contemporain. À bientôt Robert.
À bientôt Emmanuel, merci.
De Montréal, on passe au coup de gueule et au coup de cœur des libraires. On commence avec un coup de cœur en Belgique. Avec vous, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Je voudrais épingler un essai réjouissant et éthique. Il s'agit du livre « Sortir du trou, lever la tête » de Maya Mazoret, paru aux éditions Anne Carrière. Alors, on ne présente plus la chroniqueuse aux interventions tous azimuts. Elle nous donne ici d'abord sa vision de la sexualité dans des aspects culturels et psychologiques, pour évoquer au mieux la lassitude du sport et au pire ses dérives. Ensuite, on retourne littéralement le livre pour trouver le volet pratique, un vrai Kama Sutra dans la communication sans abus de pouvoir. J'ai envie de dire sauter sur ce livre.
Oui, sans jeu de mots bien sûr. Le titre du livre, Sortir du trou, lever la tête, est un livre sur la sexualité, ça fait beaucoup rire Régis Geoffrey. C'est chez l'éditeur de votre fils d'ailleurs, Régis, j'ai une carrière.
Exactement.
Maya Mazoret, merci beaucoup Nathalie. Dominique Bressou, un coup de cœur aussi.
Oui, un coup de cœur, mais pour la jeunesse alors. C'est les fantaisies naturelles
sans transition.
De Cécile Benoît.
Ouais.
Oui. C'est un livre absolument magnifique, tout est dans le titre en fait. La nature nous offre des merveilles à admirer, mais aussi quelquefois des phénomènes étrange à observer. Des lacs aux couleurs bizarres, des nuages en forme de soucoupe ou les fameuses aurores boréales.
Ouais.
Et avec ou sans explications scientifiques, certaines de ces curiosités naturelles sont admirablement illustrées dans ce livre et nous rappellent que nous vivons sur une bien belle planète.
Et ça donne envie.
Ouais, vraiment.
Bah
et c'est
oui,
pour
c'est
les
vrai.
Enfants dès 7 ans, mais franchement, les adultes peuvent rêver devant aussi.
Et vous l'avez bien présenté. Bravo. Fantaisie naturelle aux éditions Circonflexe. Allez, un coup de gueule pour la France. Anne-Rosine Vauzard en Martinique.
Oui, moi, je m'insurge contre le parcours du combattant administratif pour faire venir des auteurs à la Martinique lorsqu'on n'est pas une grande enseigne, bien sûr.
Ouais.
Donc, il faut monter un dossier qui dépasse le cadre de la librairie, un dossier administratif avec tout ce qu'est un projet hors librairie. Donc, ça donne pas envie. Et donc, c'est voilà, ça calme.
Alors, surtout qu'il y a beaucoup d'auteurs qui rêvent d'aller en Martinique ou en Guadeloupe ou encore La Réunion. Il faut les encourager, d'ailleurs, parce qu'ils ont tendance à pas demander, d'ailleurs, de leur côté. Et les libraires ont envie de les recevoir. Il y a des festivals aussi qui ont envie de les recevoir. Donc, aux éditeurs qui ont plein d'argent, parce qu'ils ont plein d'argent, disons les choses, de les envoyer aux Antilles ou à La Réunion. N'est-ce pas, Anne-Rosine Vauzard ?
C'est parfait.
Bon. Merci Anne. Josiane Letourneau, un coup de cœur pour terminer.
Oui, dans le rayon BD, le projet Shiatsung de Brigitte Archambault chez Mécanique Générale, qui nous raconte la vie de cette femme élevée depuis la toute petite enfance seule dans une maison, je dirais, de banlieue synthétique, par un logiciel qui lui apprendra tout ce qu'elle doit savoir pour être un humain fonctionnel. Fonctionnel, oui, mais définitivement pas libre. Et c'est la quête de liberté de ce personnage qui va tout faire basculer. C'est une œuvre singulière, terriblement inscrite dans le prolongement de nos préoccupations actuelles sur la place que prend le monde virtuel. Ça va loin, ça m'a secoué et c'est pour ça que j'ai adoré.
Et ça donne aussi envie chez un magnifique éditeur, les éditions Mécanique Générale, le projet Shiatsung de Brigitte Archambault. Merci Josiane. Dans un instant, la journaliste belge Anne-Cécile Huard, qui a vécu une enquête criminelle qui va vous glacer le sang. On se croirait dans une série américaine. Et puis notre hommage à Claire Bretéché pour un entretien croisé avec Gottlieb. Voici le dernier titre posthume de Rachida, tout de suite dans la librairie francophone.
عييت عييت ما نوليش شفت البلدان العامرين مشيت مشيت ما نوليش عاد الناس عاد الناس عاد الناس هربوا منا عاد الناس عاد الناس عاد الناس في الغربة سافر تروح تعيا وتولي انا رحت وما نوليش ما نوليش ما نوليش عاد الناس عاد الناس عاد الناس في الغربة
Le grand Rachida, qui nous manque beaucoup, avec un extrait de son album posthume, c'était Aïta.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Anne-Cécile Huard est dans la librairie francophone pour Mourir la nuit, paru chez On lit édition. Vous avez négocié pendant 2 ans, Anne-Cécile, avec les autorités belges pour suivre l'enquête et l'instruction d'une affaire criminelle. Vous racontez tout, factuellement, c'est glauque, souvent, triste, terrifiant. C'est encore du journalisme, ça ?
C'est totalement du journalisme, en fait, c'est vraiment tout est vrai. Donc effectivement, enfin, au départ, je devais suivre une affaire et j'en ai suivi deux en parallèle. Donc le 3 février 2014, on a retrouvé deux corps, un SDF sur une passerelle à l'entrée d'un parking.
Dans le centre de Bruxelles, ouais.
Voilà. Et puis un monsieur plus nanti, enfin même beaucoup plus nanti, dans son appartement à Uccle, une commune qu'au sud de la région bruxelloise. Et donc voilà, j'ai suivi les deux affaires en parallèle, comme des plongées dans des univers que tout oppose.
Alors, ce qui est gênant, Anne-Cécile, dans cette affaire, dans l'une des affaires, c'est celle qui concerne Jeff T, justement. Un homme assassiné chez lui, vidé de son sang à coups de couteau. C'est que vous racontez en fait sa vie privée. Vous avez interrogé ses proches, dont sa sœur, qui vous a raconté leur histoire familiale. Et le pauvre, on apprend qu'il a tenté de s'inventer une famille pour rendre sa vie plus supportable et pour dissimuler aussi ses préférences sexuelles. Et cette victime, du coup, par votre récit, elle devient une personne un peu suspecte, qui a eu une vie débridée et un peu abusive.
Oui et non. Enfin, je pense que chacun a sa part d'ombre, en fait. Et je n'aurais pas dévoilé tout ça si sa sœur ne m'en avait pas autorisé. Et elle porte à son frère justement un amour inconditionnel. Quoi qu'il ait pu faire, je pense que même lui n'avait pas vraiment de tabou sur sa vie. Il avait un côté assez solaire, une vie professionnelle, une vie sociale très riche.
Mais est-on obligé de tout raconter, Anne-Cécile, quand on fait ce genre de journalisme? Parce que vous n'êtes pas écrivaine, ce n'est pas de la littérature, c'est une enquête factuelle, très bien construite, mais c'est du journalisme. Et à l'heure où on parle justement de la protection de la vie privée, avec un homme qui est décédé, de raconter tout ça, de raconter sa vie débridée, franchement, moi, ça m'a mis en colère. On va voir avec les libraires ce qu'ils en pensent, mais pourquoi vous êtes allé jusque-là, jusqu'à tout raconter?
Parce que c'est un procès d'assises, tout est raconté pour comprendre un crime, pour comprendre comment on devient un auteur et comment on devient une victime. Donc c'est ça, et je pense que ça, c'est j'ai eu l'autorisation de sa sœur. Enfin voilà, il y a rien, il y a pas de, je pense pas que c'est du voyeurisme, pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus humain. Enfin moi c'était ma démarche en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dévoiler, je ne l'ai pas fait.
D'accord.
Donc justement, c'est pas du voyeurisme, c'est vraiment comment expliquer on en arrive à des atrocités pareilles.
Bon, on va voir avec les libraires. Justement, la Suisse, la France, le Canada et la Belgique. On commence par qui? Vous préférez commencer par qui?
La Suisse.
La Suisse. Allons-y. Dominique Bressoux, c'est à vous.
Oui, ben on entend souvent la phrase banalissime, la réalité dépasse souvent la fiction, et là, c'était vraiment le cas. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre absolument passionnant, au dialogue révoltant parfois quand on s'en prend aux victimes pendant le procès, mais... quel témoignage! Et puis surtout, merci à l'auteur qui nous laisse juge sans nous asséner des commentaires superflus. En fait, le reportage parle de lui-même et chacun peut se faire sa propre conviction.
Bien. Nathalie Clairin, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, Emmanuel. Pour moi, ce livre, c'est 256 pages de cheminement par rapport à la démarche de ma compatriote. À la base, je craignais d'être voyeur et à la lecture, je me suis plutôt sentie comme un juré qui réellement comprend les choses de l'intérieur. D'autant que ça s'est passé dans des quartiers de Bruxelles que je connais fort bien. Je voudrais ajouter que Anne-Cécile écrit vraiment bien. Elle a une écriture fluide malgré la lourdeur du sujet. Et j'ai trouvé intelligent d'avoir entremêlé deux enquêtes parce que ça fait vraiment prendre de la hauteur par rapport à des faits tout à fait sordides.
Voilà, les libraires ne sont pas d'accord avec moi pour l'instant, on verra avec les deux autres tout à l'heure. Il y a des personnages très intéressants dans votre livre, Anne-Cécile Huard, par exemple, il y a un psychiatre qui tente de dresser le portrait robot du criminel vagabond. Il vous explique tout en détail et il dit que ce sont des personnes immatures qui ont besoin de tuteurs extérieurs, soit un travail, une compagne, un enfant, quelque chose en tout cas qui les tient. Sans cela, ils se retrouvent dans une fragilité destructrice liée à une carence affective. Et souvent, ceux que l'on appelle les psychopathes n'ont pas pu se construire au cours de leur enfance. C'est ça qui crée ces personnes-là.
Bah, c'est ce qu'il explique en tout cas. Il y a effectivement un manque de structure. C'est ce qu'il explique, que ces personnes ont parfois besoin d'un tuteur extérieur. C'est comme si leur squelette n'était pas assez forte, enfin n'était pas assez stable. En tout cas, leur personnalité, leur structure de personnalité n'était pas. Voilà, il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Et donc, ils ont besoin effectivement d'un tuteur extérieur, que ce soit voilà un travail, une famille.
Ouais, pour pouvoir avancer dans la vie, c'est ça.
Oui, voilà. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que justement, l'assassin de Jephté, on ne connaît pas grand-chose de son passé, et parce que voilà, il est d'origine marocaine, et comme il explique, lui, pour expliquer ses travers, il met ça sur le compte des djinns, donc de la magie. Et nous, avec notre regard occidental, on essaye de ramener ça à la psychanalyse, à essayer de comprendre l'enfance, le père, la mère. Et en fait, il n'en parle pas. On ne sait pas exactement ce qui a conduit.
Oui, ce sont des personnages complexes.
Hein. Voilà. Ouais.
Allez, Josiane Letourneau pour le Canada, qu'en avez-vous pensé de ce livre-là?
Ben, j'en profite pour vous confier un secret, parce que quand un auteur me plonge dans un récit d'enquête policière, il a presque d'emblée une longueur d'avance, car c'est un genre que j'adore.
Et vous la êtes façon servi, hein.
dont... Ben oui, mais la façon dont vous l'avez fait, Anne-Cécile Huart, est parfaitement, à mon avis, journalistique. Et vous ne mettez pas juste la bonne dose d'humanité, et ça a complètement emprisonné mon attention. Au-delà de l'intrigue policière, c'est clairement la nature humaine dans toutes ces nuances que vous dévoilez dans votre récit. Et s'il existe une énigme, c'est bien celle-là.
Bon, voilà, on n'est pas d'accord. Hein. Pour moi, ce n'est pas du journalisme comme on l'entend, c'est du journalisme avec du voyeurisme. Anne-Rosine Vosa est en France, en Martinique, et elle est d'accord avec ses collègues aussi, je crois.
Non, je n'ai malheureusement pas accroché au récit des faits divers, mais je salue quand même l'énorme travail de recherche et de précision fourni par l'auteur. On ressent tout au long du texte un souci de véracité et de clarté pour restituer tout le temps long du milieu judiciaire. Donc je trouve que c'était bien écrit, bien écrit.
Bon, qu'est-ce qui vous a mis en colère, vous, Anne-Cécile, quand vous avez suivi ces parcours-là, ces procès-là? Qu'est-ce qui vous a énervé? Parce que quand on voit cette société qui est incapable de faire quoi que ce soit, ça pose des questions, non?
Ben, je pense que des personnes à la dérive, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Moi, ce qui m'a mis en colère, peut-être, c'est justement, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes bienveillantes autour de ces hommes, voilà, qui soient des accusés, notamment des trois suspects également SDF qui s'en sont pris. Donc,
on leur trouve des circonstances atténuantes.
Mais aussi, il y a toutes ces femmes qui essaient de les aider et qui finalement, ça se retourne contre elles. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui était récurrent aussi dans les deux affaires.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre livre, les enquêteurs? Parce que je crois que vous avez été soumis à une relecture avant publication.
Oui, voilà, c'était le deal. Hein.
Vous l'avez accepté sans problème, ça.
Mais j'avais pas le choix. Je veux dire, c'était ça ou rien. Dire, voilà, c'est un reportage, c'est pas une enquête.
Un reportage qui est canalisé, du coup.
Ben oui, mais il n'y a pas eu de censure. Ils n'ont pas corrigé. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de pression pour que je change quoi que ce soit. Alors j'ai eu la chance de tomber justement sur deux affaires qui ont été résolues où tout s'est passé. Tout s'est bien passé et c'était au-delà de tout ça vraiment une belle aventure humaine.
Bon, merci beaucoup Anne-Cécile Huart. Mourir la nuit est paru aux éditions On Lit. Vous l'avez entendu, nos libraires ont été séduits par votre livre. On n'est pas d'accord dans l'équipe, mais c'est ça le débat culturel. Merci beaucoup Anne-Cécile. Bon courage pour cet ouvrage. À bientôt. Chose promise, chose due. On termine cette émission avec un moment de radio unique, drôle et émouvant. Voici notre hommage à Claire Bretéché, un entretien croisé avec Marcel Gottlieb qui lui aussi disparu, manque beaucoup, beaucoup au monde de la BD humoristique. C'était en 2010 dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
On est très heureux de vous retrouver ensemble. Cela fait des années que l'on attend de vous voir ensemble sur une grande radio ou à la télévision. Vous retrouver comme cela, ça vous renvoie une forme de nostalgie ou vous vous en fichez complètement?
Non, moi je m'en fiche pas, et toi?
Ah ben moi je suis ravi de le voir, mais je me fous complètement de la nostalgie.
Oui.
M'intéresse pas du tout.
Vous mais n'aimez pas tout... le passé, vous?
Non.
Vous n'arrivez pas à vous plonger dans le passé?
Pas le mien en tout cas. Celui des autres éventuellement.
Alors, vous avez travaillé tous les deux au magazine Pilote avec Goscinny. Vous avez fondé ensemble l'Écho des Savanes. Est-ce que ce magazine, c'était une forme d'exutoire après avoir été privé de gros mots, de sexe? Parce que c'était assez strict hein, avec René Goscinny.
Ça dépend pour qui. Pour moi, pas du tout. Parce que j'étais très libre à Pilote. Enfin, on était tous très libres à Pilote. Oui. Sauf Marcel qui voulait absolument dessiner des bites. Alors, à Pilote, il ne pouvait pas. Parce
menteuse.
Que.
C'est vrai. Menteuse.
Comment ça, menteuse?
Non,
tu me laisses parler? Si, il est infernal. Alors, vous voyez la vie que j'ai eue à l'Écho des Savanes. Bon, alors, bref. Tout ça pour dire, je ne sais plus quoi, qu'il avait besoin, effectivement, il avait besoin d'un exutoire, ça, c'est sûr. Alors, sur ce plan-là.
Il vous aimait bien quand même. On a retrouvé un son de 1989, je crois, où Marcel parle de vous, Claire. Écoutez, c'est pas mal.
Voilà. Elle faisait tout son possible pour qu'on la considère comme un mec, comme un homme qui dessine, comme un membre de l'équipe. Et je me souviens très bien que ça l'agaçait, par exemple, quand elle arrivait pour s'installer avec nous et que l'un d'entre nous se levait pour lui céder sa place, par exemple. Alors elle le traitait de phallocrate macho. Cela dit, quand personne se levait, elle hurlait qu'on manquait de courtoisie et de galanterie. C'était très dur de... avec elle. Enfin non, je plaisante.
Quel menteur, c'est effrayant.
Ça le fait beaucoup rire encore.
On ne peut pas se défendre.
Elle
ne
veut pas
se défendre contre ça.
Le reconnaître, mais c'est la vérité.
Mais bien sûr.
En tout cas, vous avez pas mal de points communs, tous les deux, notamment dans la façon de concevoir vos bandes dessinées. On ne peut jamais dissocier le dessin du texte chez vous et vous obligez le lecteur à bien lire le dessin, je dirais. À savoir que les expressions d'Agrippine ou les détails des cases de Rubric à Brac sont essentiels pour saisir l'intention, pour saisir l'expression.
Je pense que c'est ça la BD, c'est qu'il faut que le...
Quand on lit Astérix, on peut passer les images plus facilement. Par exemple, je dis Astérix,
Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, l'attitude du personnage modifie son texte et vice-versa.
Marcel.
Oui, moi c'est pareil. Si on supprime les ballons, c'est-à-dire le texte, et qu'on ne garde que les personnages, ça devient incompréhensible et vice-versa. La BD... La bande dessinée, c'est un mélange de texte et de dessin.
Oui, mais avec vous, on est obligé de fouiller, de creuser comme cela dans chaque case.
On n'est pas obligé.
Enfin,
mais
on est tenté, en tout cas.
Dans le premier degré, c'est de lire le ballon et de regarder le dessin. Ça forme un tout. Mais bon, moi, j'ai une manie, c'est d'en rajouter.
Oui, d'en faire plein, oui.
D'en faire plus.
Vous avez l'angoisse de la case vide?
Ah oui, oui.
Ça vient de là,
oui. C'est pour ça que j'ai collé la coccinelle.
Ah oui, histoire d'en rajouter un peu.
J'ai pas le chic pour faire des décors. Ça m'ennuie profondément. Et comme les cases sont vides, sans décor, bon, bah, je me suis dit, je vais mettre la coccinelle et voilà, ça fera toujours un trou de boucher.
Il y a un côté laborieux dans votre travail, hein. Claire Bretaché, je sais que vous pouvez passer des heures sur un dessin. Le plus dur pour vous, c'est de démarrer un album, les 20 premières planches.
Oui, oui.
Enfin, et le plus dur aussi, c'est de définir, parce qu'après, il faut en faire 20 autres.
Non. Ça, une fois qu'on a l'idée, tout va bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à refaire des pages isolées, comme je faisais dans l'Observateur, par exemple.
Ouais.
C'est plus agréable de faire une histoire qu'on s'est déjà construite dans la tête et on sait où on va, donc il y a moins d'angoisse.
Et vous êtes laborieuse dans le travail, au bon sens du terme, ou...
Oh, je bosse comme un chien quand je travaille, oui.
D'ailleurs, vous avez dit être une feignasse dans la presse française.
Je suis feignasse entre deux albums.
Vous avez dit, j'ai une vie de bigorneau et quand je ne travaille pas, je suis une grosse feignasse.
Ben c'est, voilà, je confirme.
Les bigorneaux, c'est les feignasses aussi.
C'est vrai. Elle voulait dire sans doute qu'elle s'enferme dans sa coquille pour travailler.
Non, mais il comprend rien.
Non, mais c'est dingue. En tout cas, vous aimez bien les animaux, Marcel Gottlieb. Oui. Claire décrypte aussi l'animal adolescent, d'une certaine façon.
Et, excusez-moi, un de des albums préférés de moi, fait par Claire, c'est celui qu'elle n'aime pas. C'est le boulot occidental.
Ah si, j'aime bien, moi.
Ah ben, un jour, tu m'as dit, oh non, c'est pourri.
Mais non, mais c'est parce que c'est ta mémoire, c'est une question d'âge. Non, j'adore le boulot occidental.
Ah, qu'est-ce que j'ai pu me marrer.
Est-ce que vous l'aimez, Agrippine? Est-ce que vous l'aimez en tant qu'ado, Claire Bretaché, ce personnage?
Oui, j'aime bien Agrippine, oui. Oui, j'aime bien...
Parce que je sais que les ados, ça vous gonfle un peu. Enfin, en tout cas, l'image qu'on en a, on les valorise, on dit qu'ils sont exceptionnels, et ça vous énerve. C'est comme ça qu'est parti le personnage, je crois.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, on disait que les veaux étaient élevés sous la mer, maintenant, c'est les enfants et les ados qui sont élevés sous la mer, et sous le père, d'ailleurs. Ils sont assez énervants, mais quand on n'en a pas, ça va.
Vous n'en avez jamais eu, vous?
J'en ai eu, mais ils étaient, je le regrette de dire, gentils.
regrette de le dire.
Ils ont été absolument inefficaces au point de vue inspiration.
Ah oui, ils ne servent à rien.
Complètement, ils ne m'ont servi à rien du tout.
Vous êtes un peu Madame Bettencourt, en fait.
J'espère qu'il faut se tenir à carreau.
Quel regard vous portez sur la cruauté aujourd'hui, Gottlieb? Vous avez été l'un des premiers à oser certaines choses. Je pense au bébé, par exemple. La tétine pétard ou le talc à gratter. Vous mettez du talc poil à gratter sur les fesses de votre enfant. Et vous écrivez « Aucun effet secondaire, ni contre-indication. Demandez à votre médecin ce qu'il en pense. » Et on voit une mère qui est complètement hilare. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on s'est un peu éloigné de cette cruauté second degré,
cruauté,
bien sûr
c'est mais... de... Alors là, c'est de... plus proche de la parodie, déjà. C'est les farces et attrapes, mais appliquées, au lieu d'être appliquées à n'importe qui, appliquées à un bébé.
C'est mieux. Enfin, c'est plus rigolo.
C'est plus marrant.
Il peut rien faire.
Non, sauf qu'à la fin, il a quand même un gant de boxe qui lui sort de la bouche pour se venger.
Ouais. Ouais. Ah, vous vous souvenez des 500 pages? Parce qu'il y a 500 pages dans Rubrique à Braque.
Pas tout, mais il y en a certaines qui m'ont plu au moment où je les faisais, où j'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose de pas mal. Et celle-là, je m'en rappelle.
C'est toujours votre référence à vous deux, Franck. Hein. Claire, je sais que vous le citez souvent. Ouais. Ah,
pour moi, oui,
moi
aussi.
Quelle
partie de Franck, les idées noires ou...
Ah non, je suis pas folle des idées noires. Non, tout le reste, tous les albums de Spirou, dessinés par Franquin, parce que c'est pas son Mais personnage Gaston. Au départ.
Gaston Lagaffe. Et elle aime pas les idées noires par jalousie.
Non, pas du tout, non. Je le trouve pas très drôle. Mais
c'est pas drôle, non. Mais c'est vrai qu'il est en pleine déprime quand
il
est en
pleine déprime. Mes
personnages préférés dans Franquin, c'est Jules de chez Smith en face et Bertrand Labévue.
Claire, vous la détestez toujours, notre époque.
Pourquoi?
Vous disiez qu'elle elle était un peu individualiste, un peu consommatrice, qu'elle nous faisait perdre nos repères.
Quand est-ce que j'ai dit ça?
À l'époque d'Agrippine.
Elle n'a jamais dit ça.
Non,
mais de toute façon, j'ai toujours détesté les époques dans lesquelles j'ai vécu. Je pense que c'est un fond de caractère.
Merci beaucoup, Claire Brotéché. Merci, Marcel Gottlieb. Oui, un dernier mot.
Elle a vécu au Moyen-Âge et... T'as détesté.
Quel trou du cul.
Et vous pouvez retrouver l'œuvre de Claire Bretéché chez Dargo et Glénat et celle de Gottlieb chez Dargo et Flûte Glaciale. On pense beaucoup à eux. C'est bien, bien triste de les entendre comme ça parce que c'était des moments incroyables quand on a vécu avec eux. Voilà. Merci à eux.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec la chanteuse française PR2B avec la chanson du bal.
J'avais ma couleur de spleen et vert de thym. Il ne fallait rien pour me parler. Les yeux, et puis tu m'as aperçu faire de mon mieux pour m'échapper à la vue de tous les regards imbibés d'une vodka du soir, triste à pleurer. Il ne fallait pas me trouver un peu jolie dimanche soir. Dans une rue à minuit, quand tu avais tremblé, et puis je t'avais embrassé sans réfléchir. J'avais ma couleur.
C'était PR2B avec la chanson du bal, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Charles Pélabon, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Jean-Marie Félix et Madeleine Techer en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone avec des surprises et toujours des moments de radio. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut.